Allez, bonjour. Bonjour. La raison pour laquelle je suis ici, parce que je suis le pasteur du campus de Coquitlam. Et je suis le pasteur là-bas, et c'est pourquoi je suis ici. Et je vais vous inviter, s'il vous plaît, si vous pouvez lire la parole de Dieu. On va être à 2 Samuel. 2 Samuel 6, et 6, c'est la parole 6. 2 Samuel 6, 12 à 15. Vous pouvez vous asseoir, alors je vais prier. Père, nous nous réjouissons ensemble avec ce que nous voyons dans ce passage. Nous nous réjouissons en toi parce que nous savons que ta présence est ici par ton esprit. Nous te demandons aujourd'hui, alors que nous nous engageons avec ce passage, que tu puisses ouvrir nos yeux, que nous puissions voir ta gloire. Ouvre nos oreilles, que nous puissions entendre ta voix. Ouvre nos cœurs, que nous puissions croire. Parce que nous savons que c'est quand nos oreilles sont ouvertes et nos oreilles et cœurs sont tournés vers toi, que tu nous montres, que tu nous parles, tu nous aides à te croire, te faire confiance en transformant l'œuvre de nos mains et que nous puissions te glorifier partout où nous allons et en te demandant que tu nous aides à travers ces passages et tout ce que nous allons dire aujourd'hui, que nous soyons transformés par ta parole. Nous prions tout ceci en ton nom, Jésus. Amen. Nous sommes dans une série de messages sur la vie de David et jusqu'à présent. Mais aujourd'hui, c'est un peu différent car nous n'allons pas examiner David en lien avec une autre personne de manière humaine. Nous sommes allés à travers différents, et nous allons voir David avec comme une personne avec le zèle pour la présence de Dieu. Pour cela, vous venez. Nous allons être dans 2 Samuel 6, 7, où nous parlerons de la présence de Dieu et la promesse de Dieu. C'est comme ça qu'on va regarder aujourd'hui. La présence de Dieu, chapitre 6, la promesse de Dieu, chapitre 7. Regardez avec moi au début de Samuel 6, 2 Samuel 6, on dit: David rassembla de nouveau tous les hommes d'élite d'Israël, au nombre de 30 000. David s'éleva et partit avec tout le peuple qui était avec lui depuis Bala de Juda, pour faire monter de l'arche de Dieu sur laquelle est invoqué le nom de l'Éternel armée, qui siège entre des chérubins. Ils mirent l'arche de Dieu sur un char neuf et l'emportèrent de la maison d'Abinadab, qui était sur colline. Uzza et Outcho, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Verset 5, ils disent: David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, avec des harpes, des luths, des tambourins, des sistres et des cymbales. Dans cette communauté de Bala de Juda qui était située à environ 13 km, 14 km nord-ouest de Jérusalem, l'intention était de faire venir l'arche jusque dans la ville pour qui était l'arche de l'Alliance pour l'amener vers Jérusalem, le centre de leur culte. Voyez-vous l'arche de l'Alliance, où Samuel 2, 6 l'appelle l'arche de Dieu, était l'un des objets les plus sacrés de l'histoire du peuple. Dans Exode 25, c'est Dieu lui-même qui donne le plan à Moïse et chaque détail devait enseigner quelque chose sur qui il est. C'était un coffre en bois d'environ 1,20 m de long et 60 cm de large et 60 cm de haut, fait de bois d'acacia et recouvert d'or pur à l'intérieur comme à l'extérieur. Au sommet s'est trouvé un couvercle d'or massif, appelé le propitiatoire, avec deux chérubins en or, des anges se faisant avec des ailes déployées pour couvrir le couvercle. Une fois, alors qu'il faisait face, il se faisait face. Pourquoi il est dit dans le verset 12? On dit que l'arche était son trône. Une fois par an, le jour qu'on appelait le jour d'expiation, le grand prêtre entrait dans le Saint des Saints, l'intérieur du tabernacle. Une fois par an, le grand prêtre, il aspergeait le propitiatoire du sang d'un sacrifice. Ces sangs étaient versés pour couvrir le péché du peuple, leur permettant ainsi de rester en relation d'alliance avec Dieu malgré leur culpabilité. Le propitiatoire était l'endroit où la présence de Dieu apparaissait et parlait. Mais seulement par le sang de l'expiation pouvait-on s'en approcher. L'arche était le rappel visible que le Dieu saint de cieux avait choisi d'habiter au milieu de son peuple. L'arche, partout où l'arche allait, on savait que la présence de Dieu était avec eux. L'arche n'était pas juste un simple meuble sacré, elle était le point de rencontre entre le ciel et la terre, les lieux de sa présence. À l'intérieur se trouvaient les deux tablettes de pierre de 10 commandements révélant sa volonté, avec la révélation de la volonté de Dieu. Au-dessus se trouvait le propitiatoire, lieu de réconciliation par le sacrifice. Et par-dessus, et c'était un lieu de réconciliation de Dieu avec son peuple. Et c'était le trône du vivant régnant au milieu de son peuple. La révélation et la réconciliation régnaient. Et David voulait que ces lieux de la présence de Dieu soient dans la ville, au centre de la vie, de l'activité de son peuple. C'est pourquoi il est allé le prendre. Cela signifie que notre texte dans 2 Samuel 6 n'est pas un simple manifeste de transport d'un coffre en bois recouvert d'or. C'est une révélation de la présence de Dieu et c'est pourquoi ce qui suit peut choquer. Verset 6, lorsqu'ils arrivèrent à l'aire de battage de Nacon, Uzza étendit la main vers l'arche des dieux et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. On dit, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Uzza, Dieu le frappa là pour sa faute et il mourut là près de l'arche de Dieu. Le Dieu de grâce. Ce moment bouleversant nous rappelle une réalité plus profonde pour nous montrer qui est Dieu. Voyez, la sainteté de Dieu n'est pas quelque chose que nous pouvons maîtriser ou contrôler. On ne peut pas s'approcher de sa présence selon nos propres termes. Voilà ce qu'il n'avait pas à faire, c'est aller bouger l'arche de Juda à Jérusalem. Vous savez ce qu'il n'a pas fait? Il n'avait pas demandé à Dieu comment faire ça. Nulle part, il est dit que David a consulté Dieu sur la manière de transporter l'arche. À cause de cette erreur, le voyage festif de Bala jusqu'à Jérusalem s'arrête brutalement. Uzza touche l'arche et meurt. Il est dit, David est bouleversé et le peuple est terrifié. Il est dit, David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uzza d'un tel châtiment. Ces lieux furent appelés jusqu'à ce jour Peretz Uzza. David eut peur de l'Éternel ce jour-là et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui. Il ne voulait pas dans la cité de David. Il la fit conduire dans la maison de Bédédon de Gad. L'arche de l'Éternel resta 3 mois. Dans le récit parallèle de 1 Chronique, on voit que David finit par reconnaître son erreur. Oui, ce qu'il avait mal fait, ce sont les Lévites qui devaient porter l'arche. Il ne devait pas être transporté sur un char, il ne fallait pas la regarder, encore moins la toucher. Dieu est saint, voyez-vous? Et c'est ce que cela nous enseigne. Il est à part. La réalité décrit clairement dans Nombre 4 que seuls les prêtres lévitiques pouvaient porter l'arche par les barres prévues à cet effet. Et c'est seulement après l'avoir recouverte d'un grand voile. Mais au verset 12, on vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Edom et tout ce qui lui appartient à cause de l'arche de Dieu. David s'y rendit alors, il fit monter l'arche de Dieu à la maison d'Obed, à la cité de David, avec joie. 13. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, il était ceint d'un épaule de lin. Ainsi David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son de trompette. Je veux juste faire un peu le contexte. On parle de l'arche, de son mouvement. David était un homme selon le cœur de Dieu et David aspirait à la présence de Dieu. Il voulait que l'adoration du vrai roi soit au centre de la vie du peuple. C'est pourquoi il amena l'arche dans la ville. Et c'est pourquoi il s'est réjoui, quelque chose, une bonne chose à désirer. C'est pourquoi il s'est réjouissait avec une joie. La révélation de la présence, de la puissance, de la sainteté conduite avec une expression, une joie débordante. Verset 16, il dit « Lorsque l'arche de l'Éternel entra dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regarda par la fenêtre en voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel. Elle le méprisa dans son cœur. » La femme de David, ici on le dit, la fille de Saül. Certains disent cette histoire imagine David presque nu, dansant de manière indécente devant le Seigneur, mais le texte ne dit pas cela. Le sec ne dit pas qu'il était à moitié nu. Le verset 14 nous dit que David portait un épaule de lin, le vêtement simple de Lévite lorsqu'il servait devant Dieu. Voyez-vous ce que David a fait? C'est qu'il a ôté ses habits royaux, les signes extérieurs de son rang et de sa dignité de roi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé ses habits royaux et s'est vêtu en serviteur de Dieu. Son épouse Michal n'était pas scandalisée par une quelconque indécence. Elle était offensée par le manque de dignité apparente. À ses yeux, il s'était abaissé, agissant comme un homme du peuple au lieu de conserver sa stature royale. Mais David avait compris quelque chose qu'elle n'avait pas saisi. Devant le trône du vrai roi, toutes les couronnes terrestres tombent. David savait cela. Pour lui, se réjouir dans la présence de Dieu valait plus que sa réputation. Alors il a ôté ses vêtements royaux en signe d'humilité. Et il savait qu'il était en présence du roi véritable. Et c'est là tout le point du texte. Si je vous ai perdu dans le contexte du texte, parlant de l'alliance, de l'arche de l'alliance avec les chérubins, la couverture d'or, revenez maintenant, pardonnez-moi, car voilà ce que c'est essentiel. Dans le Nouveau Testament, dans sa lettre aux Colossiens, Paul dit que certaines choses de l'Ancien Testament n'ont été pleinement comprises qu'à travers Jésus. Il parlait de certaines choses de l'Ancien Testament. Et il dit dans Colossiens 2, 17, « C'était l'homme des choses à venir, mais le corps est en Christ. » Voyez-vous, l'arche était le point de rencontre entre le ciel et la terre. Mais ce n'était qu'une ombre de ce qui allait venir. Tout en elle pointé vers Jésus. Voyez-vous, dans l'Ancien Testament, il y avait les prophètes, les rois, les prophètes, les rois, les prophètes, les prêtres et les rois. Jésus est notre parfait prêtre. Il y a un théologien biblique, Dale David, qui a aidé à cela. Il dit, à l'intérieur de l'arche se trouvaient les 10 commandements, la révélation de la volonté de Dieu, comme j'avais dit avant. Mais Jésus ne fait pas que proclamer la parole de Dieu dans son incarnation, il est la parole faite chair. En tant que prophète, il révèle exactement ce qui est Dieu et comment nous devons vivre. Au-dessus de l'arche se trouvait le propitiatoire, le lieu de réconciliation. où le sang d'un sacrifice pur était versé une fois par an, afin que les pécheurs puissent s'approcher d'un Dieu saint. Mais à la croix, Jésus va plus loin qu'un simple rituel. En tant que souverain sacrificateur, il a présenté son propre sang versé sur la croix, ouvrant le chemin d'un pardon total et définitif. Il ne va pas en présence de Dieu pour nous, il nous amène dans la présence de Dieu, pour toujours. Et l'arche était aussi décrite comme le trône du règne de Dieu, le lieu où il était présent parmi son peuple. Mais dans sa résurrection et son ascension, Jésus est maintenant assis à la droite du Père. En tant que roi, il règne avec autorité, conduit son peuple et un jour amènera le royaume de Dieu à sa pleine réalisation. La place, l'arche, la révélation, la place de réconciliation, le règne, là où le règne de Dieu entre les chérubins. Jésus a accompli pleinement les fonctions du prophète, de prêtre, et du roi. Et je veux juste que tout ce que symbolisait l'arche a pris vie en lui. L'arche était une ombre, mais Jésus est la réalité. Alors, laissez-moi vous poser une question. Voulez-vous cultiver un zèle pour la présence de Dieu comme David? Si vous voulez, gardez vos yeux sur Jésus. Gardez vos yeux sur Jésus. Parce que quand vous le voyez tel qu'il est vraiment, vous ne pouvez pas rester indifférent. Chaque cœur humain aspire à la présence de Dieu. Mais que se passe-t-il quand nous essayons de combler le vide avec nos réussites, nos relations, avec, ou même nos performances, des fois même nos performances religieuses? Aucune de ces choses ne peut combler l'écart entre nous et un Dieu saint. L'Évangile nous dit que Jésus est venu accomplir ce que David, Uzza et aucun d'entre nous ne pouvait accomplir. Ouvrir un accès éternel à la présence de Dieu. C'est ce que Jésus est venu faire. Voyez-vous ce vide que vous sentez? C'est lui la réponse. C'est vide. Mais parce que Jésus a fait, ça, a fait tout. La seule raison que vous pouvez chercher la présence de Dieu, c'est parce que, et on voit dans ce texte que tout est grâce. L'Évangile appelle une réponse. Sa présence exige votre reddition, votre adoration, votre joie. Willingdon, quand avez-vous été bouleversé pour la dernière fois par la présence de Dieu? Ça, c'est la présence de Dieu. Mais deuxièmement, on va voir la promesse de Dieu. J'ai dit, David était un homme selon le cœur de Dieu, animé d'un zèle pour la présence divine. Mais 2 Samuel dit, il voulait bâtir un temple pour Dieu. Et vers 2 Samuel 7, lorsque le roi habitait dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos et en le délivrant de tous les ennemis d'alentour, il dit à l'apôtre, au prophète Nathan, vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite. Et Nathan dit au roi, va. Il dit, je veux habiter, je veux bâtir un temple pour Dieu. Ils n'avaient pas demandé à Dieu. La même chose que comme l'arche. Nous sommes des apprentis. Il est possible d'avoir un grand zèle pour la présence de Dieu tout en commettant des erreurs répétées par manque de sagesse et de direction divine. Et qu'est-ce qui... Mais Dieu est plein de grâce et il intervient. 2 Samuel 7. Cette nuit-là, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce que toi qui me bâtirais une maison pour que j'y habite, depuis le jour où j'ai fait sortir l'Égypte les Israélites, jusqu'à ces jours, je n'ai pas habité dans une maison, mais j'ai voyagé sous une tente, en un tabernacle. Partout où j'ai marché avec les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à l'un de leurs chefs que j'ai établi pour paître mon peuple d'Israël? Pourquoi ne bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Voyez-vous? Je pense que ça fait rire. Dieu est la source de toute joie. On peut s'accorder sur cela. Alors, ne peut-il pas, des fois, être un peu drôle avec ses... Il demande où est-ce que je vous ai, est-ce que je vous... où est-ce que vous avez vu que j'ai demandé que vous puissiez me bâtir une maison? Et Nathan lui dit, va. Et Dieu va. Pourquoi? Je ne veux pas demander cela. Quand vous voyez ceci, est-ce que vous pouvez vous demander pourquoi David voulait bâtir une maison pour Dieu? Voyez-vous, dans l'ancien Proche-Orient, il était courant que les rois bâtissent des temples magnifiques pour leurs petits dieux. Et c'était afin d'obtenir leur faveur divine. Un temple montrait que le roi était pieux et qu'il était censé assurer la victoire, prospérité et bénédiction pour sa dynastie. C'était une stratégie politique et religieuse. Si j'honore mon Dieu avec une maison, il m'honorera avec une victoire. Et avec la prospérité. Mais Dieu ne laisse pas David faire cela. Et c'est important que nous puissions voir pourquoi. Laissez-moi vous montrer ça, verset 8 de Samuel 8. Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé, j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et je rendrai ton nom grand comme le nom le plus grand de la terre. J'établirai un lieu pour mon peuple d'Israël, je le planterai pour qu'il y habite et ne soit plus inquiété. Depuis le temps où j'ai établi des juges sur mon peuple d'Israël, je lui donnerai le repos. L'Éternel t'annonce qu'il te bâtira une maison. OK. Voyez, par la grâce de Dieu, Dieu a pris David des champs. Quand il était dans les champs, c'est par sa grâce que Dieu l'a appelé pour à gouverner son peuple. C'est par sa grâce que Dieu a été avec lui dans tous ses combats, devant Goliath et tout. Et voilà, c'est par sa grâce que Dieu promet la paix à son peuple. Et c'est par la grâce, Dieu dit, que ce n'est pas David qui construira une maison pour Dieu, mais c'est Dieu qui construira une maison pour David. Voyez-vous, l'initiative est de Dieu. David ne gagne aucune faveur. Il y a un jeu de mots dans ce chapitre. David veut bâtir une maison d'un temple pour Dieu, mais au verset 11, Dieu promet de bâtir pour David une maison, une dynastie royale, par sa grâce. Dieu ne laisse pas David bâtir un temple comme si c'était David qui était l'initiateur pour garder la grâce. Dieu dit non, la faveur de Dieu, Dieu dit non. Dieu veut que David et Nathan et tous, que David n'est pas le bâtisseur, c'est Dieu. Et quand il le fait par grâce. Verset 12. Quand les jours seront accomplis, ceci c'est la promesse, quand les jours seront accomplis et que tu te coucheras avec tes pères, j'élèverai ta descendance après toi, celle qui sera issue de toi, et j'affermirai son règne. Ça sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. S'il commet une faute, je le corrigerai avec la verge des hommes, avec des coups des enfants des hommes, mais ma grâce ne se retirera pas point de lui comme je l'ai retiré de Saul et j'ai écarté devant toi. Ta maison et ton royaume seront assurés pour toujours devant moi. Ton trône sera affermi pour toujours. Ça, c'est lorsqu'un roi possède une maison, on l'appelle un palais. Lorsque Dieu possède une maison, on l'appelle un temple. Mais lorsque Dieu établit la lignée familiale, ta maison, par une promesse inébranlable, une alliance inconditionnelle, on appelle cela une dynastie. Et c'est cela, et c'est tout cela que Dieu promet. Et c'est établi par la grâce de Dieu. David a cherché à bâtir une maison pour Dieu. Dieu a fait une promesse à David. Mais il se passe ici quelque chose encore plus grand, quelque chose que David lui-même ne pouvait pas pleinement saisir. C'est ce qui se passait. La promesse faite par Dieu ne concernait pas seulement Salomon construisant son temple de pierre, ni même uniquement la dynastie terrestre de David. Dieu a annoncé 1000 ans à l'avance Jésus, le véritable fils de David, celui dont le trône et le royaume ne prendront jamais fin. Luc 1 parle de Jésus, dans verset 32, il dit « Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Jésus est l'accomplissement final de cette promesse. C'est un roi qui ne règne pas simplement sur une nation pour un temps, mais qui règne éternellement sur toutes les nations, tribus, langues et peuples. Son trône ne pourra jamais être renversé et son royaume ne tombera jamais parce que Dieu l'a juré et que Jésus l'a scellé. Et il ne l'a pas scellé par la force, ni par la puissance, ni par la conquête militaire. Il l'a scellé par son propre sang versé sur la croix. Jésus a pris la malédiction que nous méritions et a porté la colère de Dieu à notre place et il a triomphé du péché, de la mort et des puissances des ténèbres en donnant sa propre vie et il est ressuscité. Son trône éternel n'a pas été acquis en ôtant des vies, mais en offrant la sienne, établissant un royaume inébranlable, car fondé sur la promesse et la grâce inébranlable de Dieu. Et voici ce que Dieu fait, que seul Dieu peut faire. David aspirait à construire un temple, une maison physique où la présence de Dieu habiterait parmi son peuple. Et vous allez voir ça. Et pourtant, les siècles plus tard, Jean 2, Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple en 3 jours et je le relèverai. » Et les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi ?» En 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Autrement dit, Jésus lui-même est le véritable temple, le lieu de rencontre entre le ciel et la terre, la présence vivante de Dieu parmi son peuple. Tout ce que le temple était censé être, Jésus l'est en personne. En lui, Dieu n'habite pas simplement dans un bâtiment. En lui, Dieu habite parmi nous. 1 Corinthiens 3, si vous étiez ici, le dernier, il dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et ce temple, c'est vous. » Vous tous êtes le temple de Dieu. Les disciples de Jésus, les fils du Dieu très haut. Voyez-vous, la promesse faite à David par Dieu n'était pas simplement qu'un temple serait construit à Jérusalem, ni qu'une dynastie durerait quelques générations. C'était la promesse qu'un jour le Fils même de Dieu régnerait éternellement comme le véritable roi et que la présence de Dieu habiterait pleinement et définitivement en Jésus, le vrai temple, et que par son esprit, la présence de Dieu remplirait son peuple, faisant de nous des temples vivants de sa gloire. Voyez-vous, c'est la logique de l'évangile selon 2 Samuel 7. David voulait bâtir une maison pour Dieu. Dieu a promis une dynastie à David. Jésus est venu comme le roi éternel et le véritable temple. Et maintenant, par son esprit, nous sommes devenus sa demeure éternelle. C'est grâce sur grâce. Dieu ne promet pas seulement sa présence. Il vient vivre avec nous, en nous, par Jésus. Willingdon, vous pouvez maintenant rechercher sa présence peut le rechercher parce qu'il vous a cherché. Voyez-vous, Dieu est omniprésent, ce qui veut dire qu'il est partout à la fois. Il n'y a pas un recoin de la création où sa présence ne puisse atteindre. Mais cette vérité seule, touche rarement notre âme. N'est-ce pas? On peut savoir que Dieu est partout et pourtant se sentir loin, on peut se sentir aussi loin de lui. Parce que notre cœur désire, ce que notre cœur désire, ce n'est pas seulement le fait de son omniprésence, mais c'est l'émerveillement de sa présence manifeste. Alors, ce que vous désirez, c'est une expérience de votre théologie. Ce n'est pas seulement dire que j'ai la connaissance que Dieu est partout, tout le temps. C'est l'expérience de. C'est pas seulement que Dieu existe, s'approchant de toi. C'est que tu ressentes cela. Vous savez, c'est le langage. Et ok, vous pouvez sentir sa présence. C'est cela que nous avons perdu dans le jardin par le péché. Nous avons perdu la présence manifeste, constante de Dieu marchant avec son peuple. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que c'est pour cela que Jésus est venu, pas seulement pour vous pardonner et passer à autre chose, mais pour vous ramener dans la présence de Dieu, face à face, cœur à cœur, pour toute l'éternité. Voyez-vous, c'est par sa croix que la voile a été déchirée, nous pouvons entrer dans sa présence. Mais par son esprit, Dieu vient maintenant habiter en vous, non comme une vérité distante, mais comme un ami vivant. Et donc, voici l'invitation. Ne vous contentez pas de vivre comme si Dieu était loin. Ne vivez pas satisfait avec des idées à propos de lui, alors que vous pouvez vivre dans la connaissance réelle de lui. Cherchez sa face, demandez-lui de vous réveiller à sa proximité, approchez-vous même maintenant. Si vous voulez avoir l'un des meilleurs moyens pour faire cela, c'est, je prie cela pour tous d'entre nous, que nous puissions expérimenter la proximité de sa présence. La meilleure façon que nous puissions le faire, c'est de célébrer l'œuvre accomplie de Christ dans la communion. Et je veux vous inviter à vous repentir de vos péchés et faites un effort de vous réconcilier et de venir faire l'œuvre, de venir profiter de l'œuvre. Voyez-vous, quand on prend la communion, on célèbre que son corps a été brisé pour nous, qu'il est mort à cause de nos péchés. Quand on prend la coupe, on célèbre la vérité, que le sang de Jésus est versé et qu'il est mort sur la croix. Ce n'est pas mauvais de dire qu'on célèbre cela, mais on le fait parce que c'est notre seul espoir. On va le faire ensemble. Si vous suivez Jésus, c'est de vous repentir. J'essaye pas d'exclure certains, mais si vous n'êtes pas disciple de Jésus, vous devez savoir ce que nous faisons. Vous devez savoir que toute personne qui vous prend le pain et la coupe, ils ont dit, je ne mérite rien, je suis brisé, je ne peux pas me sauver seul. Je ne peux pas faire cela par moi-même. J'ai besoin de l'œuvre finie de Jésus. Et je fais confiance en ce que Dieu a dit à propos de ce travail fini. Je crois que l'œuvre de Jésus est suffisante pour... ça suffit pour effacer mes péchés. Toute personne qui célèbre que c'est là, il a pris cette décision. Ils sont... Comme si vous traversez la porte, il y a toute personne qui a fait le pas dans la foi, qui dit « je ne peux pas avoir toutes les réponses, mais je fais confiance en Dieu. Et je veux faire confiance avec l'offre qu'il a faite et je veux le suivre en Jésus. » Vous pouvez le faire aussi aujourd'hui. On voudrait prier avec vous, vous guider, célébrer la communion avec vous. Considérons l'œuvre de Christ qu'il a faite alors que nous allons célébrer la communion.